Radio Kapi.
Oh, Kapi. Le journal, présenté par Billy Yvan Lutumba.
Qu'est-ce qui s'est réellement passé sur Avenue Bongolo ce jeudi matin alors que des militants politiques convoqués par le parti En Vol tentaient de mobiliser les citoyens pour s'associer à la vision de leur leader Denis Sessanga de ne pas adhérer à une quelconque manœuvre de modifier la Constitution? Réponse tout de suite en entame de ce journal. Toujours dans cette édition, l'importance, l'apport du manioc et du maïs dans l'alimentation, cela fait objet d'échanges au Forum Makutano, 10e édition pour cette 2e journée. Recommandation à la fin des échanges, utiliser les produits locaux au lieu de privilégier l'importation. Albert Migabo, chef du quartier d'Endéré, est invité de ce journal. Il revient sur les avantages des routes en pavé construites dans son entité ville de Bukavu, province du Sud-Kivu. Ensemble, nous faisons à présent le tour du pays afin de découvrir d'autres aspects d'actualité pour votre édification. Excellente condition d'écoute à toutes et à tous. Très chers auditeurs, bonsoir. L'opposant Denis Sessanga, président du parti En Vol, a été interpellé et relâché quelques heures après ce jeudi à Kinshasa par la police nationale congolaise. Selon son parti politique qui dénonce cette interpellation qu'il qualifie de brutale, c'était lors d'une activité de sensibilisation de la population contre la révision ou le changement de la constitution. Rodrigue Ramazani, secrétaire général de l'En Vol, affirme que l'hôtel de ville était informé de cette campagne de sensibilisation lancée par la plateforme sur Sceau Patriotique. D'où il déplore la dispersion des militants de cette structure par les forces de l'ordre. On écoute Rodrigue Ramazani au micro de Grâce Samzadi.
Nous avons constaté que la police était déployée et a commencé à disperser le membre du sursaut patriotique qui était venu pour sensibiliser la population contre les informations erronées que Monsieur le Président de la République avait distillées à Kisangani, comme quoi la constitution de 2006 serait rédigée à l'étranger par les étrangers. Et nous étions là aussi pour marteler et dire à notre peuple que le changement de la constitution ne profitera que à M. Tshisekedi et sa famille qui continueront à dilapider le fonds public de l'État, maintenir notre peuple dans une situation de pauvreté extrême. Et étonné aujourd'hui de constater que dire non au changement de la Constitution est devenu une infraction jusqu'à pousser à une arrestation brutale, une répression inédite contre le président national d'En Vol, Denis Sessanga. Et nous sommes là pour dire aux Congolais que le changement de la Constitution n'aura pas lieu. Soyez sûr que nous ne laisserons pas, nous ne reculerons même pas pour que M. Tshisekedi se permette de changer la constitution et de s'octroyer un troisième mandat.
Le calme est revenu ce jeudi, en début d'après-midi à Kambove dans le Haut-Katanga après un avant-midi agité. À l'origine, le soulèvement des créseurs artisanaux qui ont exprimé leur colère après la mort par balle d'un des leurs dans la concession de la société Kambove Mining. Trois autres sont morts au cours des manifestations violentes qui ont suivi. Le bilan fait état de 4 morts et de plusieurs dégâts matériels. L'administrateur du territoire qui déplore ces incidents appelle cependant ses administrés au calme et les invite à privilégier la voie de la paix. Retour sur ces événements avec Jean Gandou.
D'après l'administrateur du territoire de Kambove, les événements ont commencé ce mercredi dans la nuit. Près d'une centaine de créseurs artisanaux sont entrés furtivement dans la concession de la société Kambove Mining. Ils se sont dirigés vers les usines où il y a les concentrés de minerais qu'ils voulaient emporter. Les éléments de la police les ont repoussés. Dans la foulée, un créseur touché par balle en est mort. Ce jeudi matin, ils se sont reconstitués et auxquels se sont joints d'autres. Ils ont attaqué l'état-major de la police où ils ont libéré tous les détenus avant d'incendier le bâtiment. Ils ont par la suite brûlé le corbillard et un autre véhicule appartenant à un agent du territoire. Toujours dans leur colère, ils sont allés à la résidence officielle de l'administrateur du territoire qui héberge momentanément certains services techniques du territoire. Tous les ordinateurs et d'autres biens ont été emportés avant une fois de plus de mettre feu au bâtiment. Arrivés au tribunal, ils ont fait la même chose. Considérant le nombre réduit de policiers, un appel a été fait aux militaires de l'ICACI et du centre d'instruction Moura. Ces renforts ont réussi à repousser les manifestants. C'est dans ce désordre que trois autres personnes sont tombées, ramenant ainsi à 4 le nombre des créateurs artisanaux morts par balle. Lubumbashi, Jean Gandou, Radio Kapi.
La 10e édition du Forum international des affaires Makutano qui se tient à Kinshasa a été à sa 2e journée avec plusieurs exposés à l'ordre du jour, notamment l'agriculture et l'énergie.
L'un des exposés a concerné le manioc et maïs, mais occasion pour les panélistes d'expliquer l'importance de ces deux produits dans l'alimentation. Les participants de cette rencontre ont ainsi exprimé leur attachement à l'agriculture qui, selon eux, reste un levier pour le développement économique du pays. Moumou Amouri, ingénieur agronome, explique l'apport du manioc et demande aux agriculteurs d'utiliser le produit local au lieu de se tourner vers l'importation. Il est au micro d'Étienne Lissoumbo.
Le manioc et le maïs constituent les principales cultures du pays et les deux ont un point en commun, c'est l'apport énergétique dans l'alimentation. Ça, c'est juste sur le plan alimentaire. Le manioc et le maïs entrent en grande partie dans l'alimentation humaine et animale. Et aujourd'hui, le manioc seul occupe plus de la moitié de superficie emblavée à travers la République démocratique du Congo. Le manioc est la troisième culture énergétique du monde. Aujourd'hui, le manioc, la RDC est le deuxième grand producteur manioc, mais c'est plus pour un aspect alimentation humaine. Par contre, un pays comme la Thaïlande qui vient après la RDC transforme plus son manioc en amidon et il exporte son amidon. Le gros problème, ces jeunes agronomes, ils ont la connaissance, mais ces jeunes font face à un problème de financement. Ces questions qu'ils se mettent ensemble, qu'ils essayent de réunir leurs forces, commencer petit et grandir, au lieu de travailler de manière isolée.
Actualité au niveau du Parlement. Le programme de développement des 145 territoires n'a été exécuté jusque-là qu'à moins de 33%, alors que plus de 58% des fonds destinés à ce programme ont déjà été décaissés. C'est ce qui ressort de l'évaluation du PDL 145 territoires au cours du contrôle parlementaire à l'Assemblée nationale. Outre les questions orales avec débat adressé au vice-premier ministre du plan Guylain Nyimbo, les députés ont aussi débattu hier mercredi sur les questions adressées au ministre des Infrastructures Alexis Guissaro et celui des Mines Kizito Pakapomba. Michel Kifindangoy.
L'évaluation du programme de développement des 145 territoires a fait l'objet de trois questions orales avec débat adressées au ministre du Plan par les députés Patrick Mounyomo, Vincent Andoulou et Freddy Bonzeke au sujet des travaux d'exécution financière et physique de ce programme. Freddy Bonzeke.
Pouvez-vous indiquer les taux d'exécution du programme de développement des 145 territoires par province et par territoire? Comment explique-t-il que les ouvrages soient encore à ces jours inachevés? Est-ce un problème de financement ou de détournement des fonds?
Dans sa réponse, le ministre du Plan a évoqué un taux d'exécution financière de 58% contre un taux d'exécution physique de 32% sur tous les chantiers de la RDC. Guylain Nyimbo.
Sur le 1198 écoles prévues, 518 sont achevées. Sur le 787 centres de santé prévus, 276 centres sont achevés. Sur les 145 bâtiments administratifs prévus, 59 sont achevés.
Parmi les raisons du retard constaté dans l'exécution des travaux du PDL 145 territoires, le ministre Guylain Nyimbo évoque la situation sécuritaire précaire et l'enclavement de certains territoires, ainsi que le vol des matériaux destinés à ces travaux.
Nous allons dans le Nord Kivu. La ville de Goma va bénéficier d'au moins 5 autres kilomètres des routes et avenues revêtues de pavés. Le projet a été validé à l'issue d'un atelier tenu ce jeudi à l'initiative de la coordination provinciale du projet pour la stabilisation de l'Est pour la paix, STEP. Selon les organisateurs, ceci cadre avec un sous-projet d'aménagement des avenues par pavage sous la méthode de haute intensité de main-d'œuvre. 5 axes au total sont concernés. C'est notamment axe ULPGL, santé mentale, hôpital CBK au quartier Kieshero, l'avenue du lac jusqu'au musée quartier Imbi, avenue TMK, église néo-apostolique, axe Nyarubande au quartier Kieshero, ainsi que l'axe station Simba jusqu'au sud du groupement Mouja au quartier Ndosho. L'actualité va nous amener maintenant dans la province du Tanganyika. Des experts de la Banque mondiale, du gouvernement congolais et du projet intégré de croissance agricole dans la région des Grands Lacs Picagel séjournent dans le Tanganyika pour évaluer les projets réalisés par le Picagel. Hier, ils ont visité plusieurs projets dont le barrage des Versoirs dans le territoire du Kalemie. Cet ouvrage, dans le cadre des travaux d'aménagement hydro-agricole pour rehausser le niveau d'eau afin d'irriguer près de 400 hectares des champs de riz des paysans. Paulin Munanga.
Le barrage des versoirs est construit par le Picagel avec l'appui financier de la Banque mondiale. Il est situé sur le site Mamakasanga au village Tabakongo dans le groupement Kasangamuto à territoire de Kalemi. D'après l'expert en génie civil à Picagel Tanganyika, le barrage a pour but de retenir de l'eau pour en faire une réserve et puis l'eau passe par plusieurs kilomètres de canaux qui sont construits en béton. Et enfin, cette eau desserve les champs des riz. L'importance de cet ouvrage est de permettre aux riziculteurs d'avoir de l'eau en permanence pour leurs champs, même pendant la saison sèche. Ingénieur Ismaël Kassai, expert en génie civil à Picagel.
C'est un ouvrage qui nous permet seulement à rehausser le niveau d'eau de façon à desservir les zones qui sont un peu situées plus haut que le niveau de la rivière en temps normal. Pendant la période de basse eau ou pendant la saison sèche, il y en a qui manquent de l'eau. Par contre, pendant la période de forte crue, il y a de l'eau en excès qui fait qu'ils sont chaque fois obligés à perdre leur culture. C'est comme ça que nous amène un ouvrage qui les permet à réguler l'eau. Ça permet quand on a besoin de l'eau, on peut prendre de l'eau. Quand on n'en a pas besoin, on laisse l'eau couler dans son lit normal.
Signalons que le Picagel va mettre fin à ses activités dans la province du Tanganyika le 31 décembre prochain. Kalemi, Pole Munanga, Radio Okapi.
Ituri, 175 ex-combattants du site de Diango à une dizaine de kilomètres de Bunia ont bénéficié ce jeudi des kits civils et d'argent pour leur prise en charge et la réalisation des activités génératrices des revenus. C'est à l'occasion de la clôture de projets des travaux à haute intensité en main d'œuvre exécutés par l'Organisation internationale de migration OIM. Ces ex-combattants ont salué cet appui des partenaires du gouvernement pour leur réinsertion dans les communautés dans le cadre de programmes de désarmement et démobilisation. Isaac Remoyope.
Des scènes de liesse et l'exhibition des danses par des ex-combattants ont marqué la clôture de ces projets à haute intensité des mains d'œuvre. Chacun a reçu des $125 américains et des kits civils fournis par la section DDR de la MONUSCO composés des pantalons, des draps, des babouches, des couvertures et des pagnes pour les femmes. Ces montants vont leur permettre de répondre à certains besoins prioritaires et de faire le commerce pour la prise en charge de leur famille. L'hymne de Chantal Nobikana.
OIM nous a donné un peu d'argent. Nous sommes très reconnaissants. Nous allons envoyer une partie à la maison pour la famille et le reste va me servir dans une activité de mon choix. Faire par exemple le commerce du poisson à Kasenyi en vue de répondre à certains besoins.
Le bureau provincial du PDDRCS en Ituri a remis à ses ex-combattants des attestations de démobilisation pour leur permettre de vaquer librement à leurs activités. Son coordonnateur intérimaire indique que ces démobilisés seront déployés dans leurs communautés respectives en attendant l'effectivité du programme de réinsertion sociale. Fleury Kitoko.
Le programme national va programmer un jour pour faire sortir les démobilisés officiellement pour entrer dans leur communauté.
Signalons que les travaux de main d'œuvre réalisés par ces ex-combattants ont permis de réhabiliter des routes et des certes agricoles, notamment Chari, Kunda, Mwangalipri, qui alimentent la ville de Bunia en vivres. Bunia, Isaac Remoyope, Radio Okapi.
Actualité internationale.
Une cinquantaine de personnes ont manifesté en faveur d'un financement solide de la lutte contre le changement climatique lors de l'entrée des participants à la COP29 ce matin en Azerbaïdjan. Les manifestants ont demandé que les pays riches, qui sont responsables de la plupart des émissions des gaz à effet de serre contribuant au réchauffement de la planète, payent leur juste part dans les négociations sur le financement du climat qui se déroule cette année lors de la conférence des Nations Unies sur le climat. Et puis, le taux de diabète dans le monde a doublé au cours des 30 dernières années. Selon une nouvelle étude publiée par la revue universitaire britannique de Lancet, quelques 800 millions d'adultes dans le monde sont atteints de diabète. La progression de ces cas a été la plus forte dans les pays en développement où l'accès à des soins appropriés peut être difficile, surtout pour les populations à faible revenu. Le rapport montre que si le diabète a reculé dans certains pays comme le Japon, le Canada, la France et le Danemark, il n'a cessé d'augmenter dans les pays en développement. La progression de ces cas a été la plus forte dans les pays en développement où l'accès à des soins appropriés peut être difficile, surtout pour les populations à faible revenu. Le rapport montre que si le diabète a reculé dans certains pays comme le Japon, le Canada, il a cessé d'augmenter dans ces pays en développement.
L'invité.
Nous recevons Albert Migabo, chef de quartier de Dendere dans la commune d'Ibanda, ville de Bukavu. Son entité vient de bénéficier de 5 km des routes construites en pavé grâce au financement de la Banque mondiale en partenariat avec le gouvernement congolais. C'est un projet pour la stabilisation de l'Est Steppe qui a coûté environ $2,270,000. Albert Migabo s'entretient à ce sujet avec Jean Kassami.
Albert Migabo, vous êtes le chef de quartier de Nere, bonjour.
Bonjour.
Votre entité figure parmi les juridictions qui ont bénéficié de ce projet de 5 km de pavage de route. Quelle impression avez-vous sur la qualité des travaux qui ont été réalisés?
L'impression est bonne. Franchement, les travaux qui ont été exécutés sont de bonne qualité. Les activités ont été bien réalisées et nous remercions, nous tenons à féliciter le Fonds social qui nous a aidés par ce projet STEP et nous sommes reconnaissants de tout ce qu'on a fait. Vous savez, ce projet est venu répondre aux besoins profonds de la population. C'est un projet qui est venu désengorger la route principale, les mairies Patrice et Mairie Lumumba. C'est un projet qui est venu faciliter la circulation fluide de la population et de l'air bien. Et aussi, c'est un projet qui est venu même moderniser la ville de Bukavu et aussi les quartiers de Ndere. Et aussi, c'est un projet qui a résolu et aussi qui a créé les emplois dans notre quartier de Ndere.
Et comment vous réagissez aux critiques selon lesquelles le matériau utilisé n'ont pas été à la hauteur de la tâche?
Ça c'est vrai, certaines personnes disent que les matériaux qu'on a utilisés ne sont pas de bonne qualité. Mais vous voyez, c'est la première fois qu'on utilise ces matériaux ici. Moi je pense que les gens devraient parler tout ce qu'ils voudraient. Et aussi vous savez que si les réseaux sociaux ont dit de tout et de rien, mais de toutes les façons, nous qui avons participé, et nous qui avons fait, même été parmi les gens qui ont fait le suivi des activités, nous sommes convaincus que la qualité de ces matériaux qui ont été utilisés, c'est de bonne qualité et l'avenir nous donnera raison.
L'autorité provinciale venait de demander à vous, cadre de base, de veiller à ce que le camion qui dépasse 5 tonnes ne puisse pas circuler sur cette route faite à base de matériaux ou de pierres volcaniques. Quels sont les moyens dont vous disposez comme chef de quartier afin de rendre efficace cette recommandation formulée par l'autorité provinciale?
C'est là où peut-être nous aurons des difficultés. Il s'est d'abord adressé au maire, sachant que le maire a des mesures coercitives et les mesures à la police qu'il peut utiliser. Mais pour le quartier, nous serons peut-être là pour dénoncer et donner rapport au maire, donner rapport à l'autorité provinciale, donner rapport à l'autorité communale, puisque le quartier lui-même n'a pas de mesures coercitives. Mais de toutes les façons, avec la sensibilisation que nous sommes en train de mener, avec les mégaphones, au niveau des radios, nous osons croire que quelqu'un qui peut écouter, il peut quand même comprendre et voir comment nous pouvons pérenniser la route que nous avons acquise chez Raymond.
Quelles sont les difficultés que vous avez observées au cours de la première phase et lesquelles vous aimeriez qu'on puisse éviter lors de cette phase de 5 autres kilomètres?
Oui, les difficultés que nous avons rencontrées, les ingénieurs qui étaient sur terrain n'étaient pas beaucoup collaborants avec le chef de quartier et ça a été un sérieux problème. Et aussi, des fois, on disait qu'il y avait certains matériaux qui étaient déplacés et on ne pouvait pas aussi oublier que on ne payait pas rapidement les agents. Des fois, on arrêtait les travaux et les agents se retrouvaient dans la rue pour revendiquer leurs droits. Ça a été un problème. Nous pensons que si on pouvait commencer d'abord à résoudre de tels problèmes ou lutter contre ces problèmes-là, ça peut occasionner vraiment que les travaux puissent marcher rapidement. D'ailleurs, les causes dont je venais de citer là étaient parmi les causes qui ont fait que les activités qui devraient prendre 3 mois ont pris finalement 5 mois. Il y avait des petites difficultés. La population qui ne voulait pas qu'on puisse même passer à côté de chez lui, il croyait que la route appartient aux voisins. Mais après la sensibilisation, la population a compris que ça a été franchement un projet qui était venu répondre aux besoins profonds de la population.
Monsieur le chef de quartier Ndere, dans la ville de Bukavu, nous vous disons merci.
C'est nous qui vous remercions, journalistes.
Mesdames et messieurs, voilà qui met un terme à cette édition de nouvelles sur Radio Okapi. Ce journal vous a été préparé par Martin Sebujangwe, Pelekipe Lamondo, Richard Junior Kamunga et Billy Ivan Lutumba vous l'a présenté. Prise de soin et mise en onde, Pierre Diassinois. Merci de nous avoir suivis.